Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. À responsabilité collective, démission collective. Trois personnalités appellent les évêques de France à quitter leurs fonctions une semaine après la publication du rapport Sauvé sur les violences sexuelles au sein de l'Église. Rémi Brancato nous explique. Pas moins de 5 sondages d'intention de vote publiés la première semaine d'octobre. Pourquoi cet emballement ? Médias et sondeurs sont-ils en train de biaiser le débat à 6 mois de la présidentielle ? Question à Brice Teinturier de l'Institut Ipsos. Et à 6 mois de l'échéance, pour l'instant, on recense une trentaine de candidats à l'Élysée. Anne Souhaitement fera le point. La maire de Calais en appelle à Emmanuel Macron. La tension monte entre France et Grande-Bretagne sur le contrôle de la frontière face aux tentatives des migrants en Manche. Il faut tout remettre à plat, selon cet élu, en première ligne. Dans l'actualité encore, les pourboires défiscalisés, les chauffeurs de taxi et VTC après les serveurs au restaurant, c'est en discussion dans le budget. Le frelon oriental arrive en France après le frelon asiatique. Le plan France présenté demain va-t-il marquer un nouvel engagement pour le nucléaire ? Et puis Jean-Jacques Goldman, 70 ans, est toujours aussi populaire. Notre invité à 13h30, Grégory Allione, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Les pompiers en congrès cette semaine à Marseille. Entre la multiplication des missions et le changement climatique qui attise les incendies, peuvent-ils tenir longtemps ? Vos questions et témoignages, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Et puis dans C'est une chanson, nous écouterons la dernière séance d'Eddie Mitchell, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Près d'une semaine après la publication du rapport Sauvé, l'Église de France est au pied d'une montagne. Quelle réponse va-t-elle apporter aux préconisations de ce rapport sur les violences sexuelles qui ont atteint 330 000 victimes entre les années 50 et aujourd'hui ? Deux sujets particulièrement sensibles. La commission appelle à lever le secret de la confession. Et puis l'argent, où trouver les millions nécessaires à l'indemnisation individualisée des victimes ? Ce matin, un défi de plus surgit pour les évêques. Trois personnalités les appellent à démissionner. Le cofondateur de l'association de victimes La Parole Libérée, François Devaux, et deux femmes, la théologienne Anne Soupa et Rémi Brancato, la directrice de la rédaction de Témoignages Chrétiens, Christine Pedotti.
Oui, ce sont trois figures bien connues des catholiques de France qui appellent depuis des années à des réformes. La théologienne Anne Soupa avait notamment candidaté au poste d'archevêque de Lyon pour promouvoir la place des femmes dans l'Église. Aujourd'hui, la révélation de l'ampleur des violences sexuelles dans l'institution est une opportunité pour pointer la responsabilité collective de l'épiscopat. Christine Pedotti de Témoignages Chrétiens demande donc un symbole.
Les catholiques, ils sont doués normalement en symbole. Donc je leur demande de faire cet acte pour affirmer qu'ils se sentent responsables et qu'ils ont bien conscience que quelque chose doit changer radicalement. Je peux leur rappeler aussi que les évêques du Chili, devant un gigantesque scandale de pédocriminalité, ils ont tous donné leur démission au pape, peu importe qu'elle soit acceptée ou refusée. C'est l'acte qui est important.
Le pape a d'ailleurs refusé récemment la démission du cardinal Marx en Allemagne. Les trois auteurs de l'appel demandent un changement immédiat et proposent que Véronique Margron, sœur dominicaine, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, assure en quelque sorte un intérim, qu'elle soit nommée légat, envoyée du pape en France. Pour la principale intéressée, c'est hors sujet.
J'ai découvert ce communiqué de presse comme vous. La question n'est pas du tout la démission des évêques de France. La seule question qui vaille pour moi, c'est comment nous allons enfin faire justice aux personnes victimes. Pour ça, il faut une institution. Si demain, dans l'Église de France, il n'y a plus d'évêques, je ne vois pas comment nous allons faire cela.
Et du côté de la Conférence des évêques de France, pas question de commenter cet appel. Aucun évêque ne s'exprime. L'urgence, c'est la prise en charge des victimes, nous dit-on. Et des réformes de structure ont déjà été lancées en début d'année.
Les conclusions de la commission Sauvé, les débats qui ont suivi, vous avez beaucoup d'éléments à ce sujet sur franceinter.fr. À Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, un conseil de discipline au lycée professionnel Jacques Prévert va être convoqué après l'agression d'une enseignante. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. Un élève veut sortir de classe, elle essaie de l'en empêcher en se plaçant près de la porte. Il ouvre la porte de force, ce qui l'a fait violemment tomber. Il est interdit d'accès à l'établissement à titre conservatoire et risque de lourdes sanctions, précise l'Académie de Créteil. Nous sommes désormais à 6 mois de l'élection présidentielle. Moins de 6 mois même. Le premier tour aura lieu le 10 avril. La campagne est déjà très active. Et vous n'avez sans doute pas en tête le nom de tous ceux qui sont à l'heure actuelle candidats. Bonjour Anne Souhaitement.
Bonjour.
Faisons le point avec vous, il y a à ce stade une trentaine de candidats.
Oui, alors rembobinons un peu Bruno, depuis 1965, date de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, eh bien le nombre de prétendants à l'Élysée a souvent tourné autour de la dizaine. 12 en 74, pareil en 2007, 10 en 2012, 11 en 2017, combien en 2022 ? Pour l'instant, vous l'avez dit, ils sont une trentaine. Il y a d'abord les poids lourds de la politique, Marine Le Pen, candidate depuis plus d'un an, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, après avoir remporté la primaire écologiste, Anne Hidalgo ou encore Arnaud Montebourg. Il y a aussi les points d'interrogation. Emmanuel Macron, Éric Zemmour, la grande question à droite, qui sera candidat ? Il y en aura-t-il un ou deux ? Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier. Et puis, il y a ce qu'on appelle les petits candidats issus de formations modestes, comme le président des Patriotes Florian Philippot, une des figures des Gilets jaunes, Éric Drouet, Jacqueline Mourot, ou encore de complets inconnus, comme l'universitaire Clara Eger. Combien seront-ils au final ? Qui réussira à arracher les 500 parrainages d'élus ? Nécessaire, des adversaires d'octobre pourraient-ils être alliés en mars ? Réponse, un mois avant le scrutin, le Conseil constitutionnel dévoilera la liste définitive le 10 mars. Un chiffre à garder en tête, Bruno, le record de 2002 avec 16 candidats. La qualification au second tour de Jean-Marie Le Pen avait fait l'effet d'une bombe, on s'en rappelle. La faute, selon nombre d'observateurs alors, à la multiplication des candidatures.
Et à 6 mois de l'échéance, les sondages d'intention de vote sont déjà très nombreux, eux aussi 5 rien que pour la première semaine d'octobre, 13 en tout au mois de septembre. Y a-t-il un emballement et cela déforme-t-il le débat ? Quelle est la part de responsabilité des instituts de sondage et celle des médias ? En précisant que France Inter ne commandera pas en son nom de sondage de type intention de vote, mais on ne va pas prétendre qu'on ne regarde pas ceux qui existent. Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour Bruno Devic.
Directeur général délégué de l'Institut Ipsos, il y a un emballement sur le nombre de sondages intention de vote et pourquoi de votre point de vue ?
Il y a une réalité factuelle qu'il y a davantage de sondages publiés que lors de la précédente élection présidentielle et si on remonte le film à chaque fois il y en a davantage. Pour une raison assez simple, c'est parce que vous avez une fragmentation des médias, de nouveaux médias oui. Et plus de médias signifie plus de commandes d'enquêtes publiées. Ça, c'est la première raison. Donc, je m'étonne toujours un peu quand j'entends des médias qui font mine de s'offusquer du trop grand nombre de sondages publiés, alors qu'ils en sont à l'origine. Il faut des médias, encore une fois, pour qu'il y ait des sondages publiés. Et puis, il y a aussi un autre point, je crois, qu'il faut essayer de rappeler, c'est que vous avez intitulé, anglais, comme on dit, le début de cette émission, entre est-ce qu'il y a un biais ? On pourrait aussi faire l'hypothèse que les enquêtes d'opinion, tout comme les journalistes, ne biaisent pas la campagne présidentielle, mais l'éclairent. Mmh. Et je réponds aussi à votre question. En l'absence d'enquêtes d'opinion, si nous n'avions rien, si nous n'avions aucun sondage, que pourrions-nous dire ? Que saurions-nous de ce qui se passe à droite, à gauche, d'Éric Zemmour, ou pas seulement Éric Zemmour, de la répartition des forces entre Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, etc. Donc, l'emballement, je trouve, il est dans la critique, et c'est un emballement dangereux, c'est un emballement pernicieux, parce qu'à force de seriner que 6 mois avant, les sondages se trompent toujours.
Ce qui est le cas, c'est-à-dire que 6 mois avant, on n'a pas la photo de 6 mois après la plupart du temps.
Mais est-ce que vous, sérieusement, est-ce que vous pouvez vous étonner de cela ? Est-ce que franchement vous pouvez vous étonner et le mettre en scène en faisant mine de le reprocher à l'instrument, alors même que nous ne cessons de dire que les médias le savent très bien, que bien évidemment que 6 mois avant, quand la campagne électorale n'est pas connue, vous venez d'expliquer que les candidatures ne sont pas connues, on ne prétend pas donner le résultat, on prétend éclairer les mouvements d'opinion. Mais juste un point, parce que je crois que c'est vraiment fondamental, ce que les médias aussi ne rappellent jamais quand ils disent 6 mois après, avant, tous les sondages se trompaient toujours. L'exemple emblématique, c'est Chirac-Balladur. Ça nous fait un peu sourire en institut de sondage, mais ça nous attriste aussi, parce que qui a montré, comment avons-nous su à partir du mois de février, que Jacques Chirac passait devant, chez les Français, Édouard Balladur, et que Jacques Chirac allait emporter l'élection présidentielle. C'est grâce aux sondages d'opinion. Donc moi je veux bien qu'on dise les sondages se trompent toujours 6 mois avant, mais rappelons au moins, quand ils ont suivi le film, qu'ils ont éclairé la mobilité électorale, il faut aller jusqu'au bout de la démonstration. Sinon, on casse l'instrument, on le délégitime, et après on raconte n'importe quoi.
Brice Teinturier, on vient de le voir avec Anne Souhaitemont, il y a une trentaine de candidats aujourd'hui à 6 mois de l'échéance. Comment est-ce que vous choisissez ceux dont vous soumettez les noms aux personnes que vous interrogez ?
C'est une vraie question et une vraie difficulté quand on est très en amont, effectivement, de l'élection. Alors, il y a tous ceux qui sont déclarés officiellement, déjà qui se déclarent. Il y a ceux qui ont déjà été candidats, donc on sait qu'ils pourront avoir les parrainages, ça nous donne un univers de certitude, on va dire, pour 8 ou 10. Nous savons également, et vous venez de le rappeler avec raison, que quand il y a 30 personnes ou 30 candidats qui nous disent « je vais être candidat », tous ne le seront pas. Et puis après, on rentre dans l'univers des incertains. Donc on essaye d'attendre pour savoir si véritablement ils auront les parrainages. Il y a un moment, on se dit, là, ça semble vraiment très très sérieux, très possible. Ou alors, on fait ce qui est une difficulté pour nous. On multiplie les cas de figure.
Les hypothèses.
On fait des hypothèses avec Éric Zemmour, par exemple, ou sans Éric Zemmour. On n'a pas tout de suite travaillé sur la candidature d'Éric Zemmour, mais au fur et à mesure où ce cas de figure se précisait, eh bien, on a multiplié les intentions de vote avec ou sans.
Autre question importante. Je reprends l'Ipsos pour Le Parisien et France Info d'il y a une dizaine de jours. Enquête auprès d'un échantillon représentatif de 1500 personnes inscrites sur les listes électorales représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Sur ces 1500, combien sont certaines d'aller voter? Parce que ça diminue singulièrement le panel tout de même.
Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt à travailler sur des échantillons plus importants. On travaille à Ipsos avec le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde sur un échantillon de 15 000 personnes. C'est ce que nous avions fait en 2017. Et avec d'autres médias qui n'ont pas toujours le modèle économique qui leur permet d'acheter de tels échantillons. Pardonnez-moi de le rappeler aussi.
Ça coûte combien un sondage comme celui d'il y a 10 jours?
Un sondage de sur 1500 personnes comme ça, ça coûte à peu près 8000 euros. Donc quand vous avez des tailles d'échantillons qui sont plus petites et que vous travaillez, et il faut travailler sur ceux qui nous disent qu'ils sont certains d'aller voter, ça diminue effectivement votre base.
On tombe à combien?
C'est pourquoi, suivant le nombre de personnes qui vous disent je suis certain d'aller voter ou pas, est-ce que vous prenez comme indicateur, ça peut être 40% en moins de l'échantillon ou 45% en moins de l'échantillon. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Ipsos a décidé, en prenant sur lui-même, d'augmenter les tailles d'échantillons de 1500 personnes au moins, quand nous ne pouvons pas travailler sur notre gros panel de 10 à 15 000 personnes pour en avoir suffisamment. Je voudrais aussi préciser qu'il n'y a pas d'écart non plus, jusqu'à maintenant, fondamentaux en fonction de la taille de l'échantillon qu'on a pu utiliser, là, entre les 1500 cas ou les 10 000 cas, et qu'il n'y a pas non plus, parce que ça fait beaucoup fantasmer, et c'est une nouvelle critique qui est arrivée, qu'il n'y a pas non plus énormément de différence dans les intentions de vote, suivant que vous prenez les gens qui se disent certains d'aller voter note 10, ou certains d'aller voter sur une échelle de 0 à 10, note 8, 9, 10. Parce que j'entends beaucoup de choses, erronées et paradoxales, donc comme vous me donner la possibilité de les rétablir, et je vous en remercie, je pense qu'il faut le préciser.
En une seconde, les marges d'erreur, c'est nous les médias qui ne les donnons pas suffisamment, c'est de notre responsabilité, pas de la vôtre, vous les mettez toujours dans les études, vraiment en un mot s'il vous plaît.
On a toujours le tableau des marges d'erreur qu'on met dans tous nos rapports, simplement, et je comprends la difficulté pour les médias, s'ils devaient donner la marge d'erreur pour chaque candidat, c'est ce qu'il faudrait faire, ça devient un peu compliqué. Mais retenons que oui, il faut être prudent, mais a fortiori à 6 mois du scrutin, nous sommes là pour éclairer, permettre de comprendre ce qui se passe dans l'opinion. Un mot encore, en 2016, nous avons fait une présidentielle avec une délégitimation de l'outil. Je sais ce que ça a donné. On racontait à ce moment-là que Filteris, institut qui faisait du big data, expliquait que François Fillon serait qualifié pour le second tour. Nous disions non, il va faire dans les 20%. Nous étions inaudibles parce qu'on avait décidé de délégitimer les enquêtes d'opinion. Eh bien, ça a fait une campagne, on a raconté n'importe quoi. On peut se tromper, je tiens aussi à le dire. On a eu des difficultés au moment des régionales, on travaille en permanence, donc je ne dis pas que l'instrument est parfait, je dis simplement qu'il faut arrêter de taper sur l'instrument et de le délégitimer.
Merci Brice Teinturier d'être passé dans les studios de France Inter. À 6 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron doit présenter demain un plan massif d'investissement, plan France 2030. Le chiffre le plus souvent évoqué et qui doit être confirmé demain tourne autour de 30 milliards. Il s'agit, selon la majorité, de miser sur les champions de demain, les secteurs d'avenir. Quelle place pour le nucléaire? Le gouvernement veut investir dans cet outil, selon La République En Marche. Le nucléaire, en quelque sorte, semble revenir à la mode, ce qui inquiète évidemment ceux qui mettent en garde contre les inconvénients, voire les dangers de cette énergie. Sandy Dauphin.
Le nucléaire est une énergie bas carbone, bonne pour le climat, et c'est un pilier de la souveraineté énergétique de la France. Ces arguments des défenseurs de l'atome ne sont pas nouveaux, mais ils sont martelés en ce moment. Un raisonnement unidimensionnel, d'après Yves Marignac, expert en énergie, porte-parole de l'association Négawatt, qui défend un scénario 100% énergie renouvelable pour la France.
L'argument climatique et le débat sur cette urgence a réduit toute la question nucléaire à cette capacité de produire sans carbone en occultant complètement d'autres dimensions telles que les risques et les déchets. Et puis, c'est sans doute un vieux réflexe hérité la période gaullienne, de rapport entre ce recours au nucléaire et une forme de souveraineté.
Plus catégorique pour Charlotte Mijon de l'association Sortir du nucléaire, ceux qui défendent l'industrie de l'atome comme une filière d'excellence ont la mémoire courte.
Il y a une surenchère de la part de quasiment tous les candidats, comme s'il y avait une amnésie collective ou un aveuglement sur le fiasco que constitue actuellement le chantier de l'EPR avec ses 11 ans de retard et ses coûts multipliés par 4.
Autre argument de l'association Sortir du nucléaire, pour réduire à court terme les émissions de CO2, il faut miser sur les énergies renouvelables et non pas sur de nouveaux EPR ou mini-réacteurs dont la construction pourrait prendre des années.
Et le plan que présentera Emmanuel Macron demain n'est pas intégré dans le budget 2022, ce qui rend sa lecture difficile, celle du déficit en particulier. Le budget en débat à l'Assemblée. À partir d'aujourd'hui, le député du Modem, Bruno Fuchs, propose un amendement. Emmanuel Macron a récemment proposé de défiscaliser les pourboires payés en carte bancaire dans les cafés-restaurants. Eh bien, le député, Lauriane Delanoë, propose la même chose dans les taxis et VTC pour un coup de pouce aux chauffeurs.
Oui, ces chauffeurs qui souffrent de la crise sanitaire et de l'absence des touristes étrangers. Ce député, Bruno Fuchs, pense principalement aux taxis. Le tarif des courses est en effet réglementé. Le pourboire est donc la seule variable pour améliorer le pouvoir d'achat des chauffeurs. Seulement voilà, les pourboires sont en baisse avec la généralisation des paiements en carte bancaire, selon Armand Joseph Houdin. Il est directeur général de l'UNIT, l'Union nationale de l'industrie du taxi.
Quand vous avez arrondi la course, elle était à 15 euros, vous avez dit au chauffeur prenez 16 euros, et ben les 16 euros, vous paierez des charges sociales et des impôts dessus, alors qu'avant, vous ne déclariez que le montant du compteur et le pourboire en liquide, en général, était défiscalisé. Et donc, un petit ballon d'oxygène avec la défiscalisation des pourboires sur le reste à vivre, ce serait assez notable pour les chauffeurs.
Les fédérations de taxi demandent donc cette défiscalisation depuis la semaine dernière. Du côté des VTC, les voitures de transport avec chauffeur, il y a un peu moins d'enthousiasme. C'est juste du bon sens, me glissait tout à l'heure un chauffeur Uber. Et à la section CFDT-VTC, justement, le secrétaire Ali Lemouchi estime que la priorité est ailleurs sur les taxes prélevées et les commissions des plateformes comme Uber.
Uber, ils prennent 25% et qu'on paye des charges et des impôts sur les 25% de commission qu'Uber nous prenne. Les pourboires par rapport aux 25% qui sont les chiffres d'affaires, c'est des miettes. Vous allez me parler d'une défiscalisation de miettes alors que vous me prenez une baguette. Je ris jaune.
Ce représentant CFDT profite donc du débat sur l'amendement en ce moment pour interpeller le gouvernement sur ces taxes.
Et voici un des nombreux sujets de fâcherie en ce moment avec la Grande-Bretagne, le contrôle des frontières en Manche. Les Britanniques accusent le gouvernement français de fermer les yeux sur beaucoup de passages de migrants. La France reproche aux Anglais de ne pas participer suffisamment au financement du travail de police. Ce week-end, Gérald Darmanin a réclamé 63 millions d'euros aux Britanniques. En attendant, à Calais, entre 1500 et 2000 personnes vivent dans des conditions particulièrement précaires dans l'espoir de passer de l'autre côté de la Manche. Le prix à payer aux passeurs pour la traversée est de 7000 euros, selon la maire de Calais, Natacha Bouchard, qui en appelle au président de la République.
Aujourd'hui, il est important pour la France que le président de la République réunisse enfin, oui, le ministère de l'Intérieur, mais oui, le ministère de la Justice, et oui, le ministère des Affaires étrangères, et oui, le ministère de l'Économie, qu'ils viennent tout simplement faire cette réunion de travail avec le maire de Calais. Il n'y a que le président de la République qui peut provoquer, en fait, cette réunion. Calais, aujourd'hui, est une vraie zone frontière. On peut y mettre d'autres dispositifs beaucoup plus fermes vis-à-vis des passeurs, beaucoup plus fermes vis-à-vis des Britanniques, beaucoup plus fermes vis-à-vis de certaines associations. Et c'est pas seulement en mettant des hommes et en achetant des drones qu'on va régler très clairement le fond du problème.
La maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, elle est également vice-présidente de la région Hauts-de-France. Elle répondait à Marc Fauvel sur France Info. Et ce matin, le gouvernement britannique promet qu'il donnera à la France, dans les prochaines semaines, l'argent promis pour lutter contre le trafic de migrants depuis les côtes françaises. Le rapprochement des deux géants de la grande distribution en France n'aura pas lieu, en tout cas pas pour l'instant. Carrefour a mis fin aux discussions avec Auchan. Elles semblaient très avancées. Qu'est-ce qui a fait capoter le projet? que dit-il du paysage de la grande distribution? Élément de réponse avec Olivier Dauvert, il est spécialiste de la consommation et de la grande distribution.
Les discussions sont officiellement finies. Est-ce qu'elles le sont officieusement? Rien n'est moins sûr, parce que quand deux fiancés ont eu des marques d'intérêt l'un pour l'autre pour se marier, ben on peut imaginer que le désir y reste là. Donc c'est fini officiellement, mais il ne faut jamais insulter l'avenir. Cette affaire Auchan-Carrefour, elle traduit l'extrême fébrilité des vieux acteurs du commerce face à la révolution commerciale dans laquelle on est. Ils sont en retard sur des tas de sujets, sur le digital, ils sont en difficulté commerciale. Le cas d'Auchan est éloquent, et l'Auchan en France perd des parts de marché depuis plus de 8 ans désormais. Donc il y a une fragilité, il y a une fébrilité, et la réponse qu'ils recherchent tous, c'est de sortir par le haut, de devenir encore plus gros, pour faire encore plus d'économies d'échelle, pour tenter finalement de se maintenir dans un paysage commercial qui est en plein bouleversement.
Un propos recueilli par Manuel Ruffès de la grande distribution au marché du travail. Le prix Nobel d'économie attribué ce matin à 3 universitaires qui travaillent aux États-Unis, David Card, Joshua Angrist et Guido Imbens précisément. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Tous trois ont travaillé sur le marché du travail justement.
Oui, le premier notamment David Card sur un angle qui nous intéresse particulièrement en France, celui de l'impact du salaire minimum sur le marché du travail. C'est un débat qui revient à chaque fois qu'il est question d'augmenter le SMIC. C'était encore le cas il y a 10 jours, au 1er octobre. Est-ce que cela dissuade des employeurs d'embaucher? Non, selon les travaux de David Card, qui a notamment étudié le cas très concret du secteur de la restauration rapide dans le New Jersey. À ses côtés, deux coloréas, Joshua Angrist et Guido Imbens, eux aussi sur l'économie du travail, mais plus sur les outils mathématiques qui permettent son analyse. Ils sont récompensés pour un concept sur lequel ils ont travaillé ensemble, celui des variables instrumentales, qui permet d'analyser les relations de causalité entre variables économiques et d'en tenir compte, notamment dans l'analyse du marché du travail. De la théorie, donc, et de l'empirisme. L'Académie Nobel a choisi cette année de jouer sur les deux tableaux et de récompenser, comme l'an dernier, la recherche américaine.
Quelle est l'ampleur de ce réseau de trafic de stupéfiants qui fait l'objet d'une enquête entre Seine-Maritime et région parisienne? 19 personnes arrêtées, placées en garde à vue, dont la maire de Canteleu dans la banlieue de Rouen et l'un de ses adjoints. C'était vendredi, garde à vue levée pour les deux élus, samedi, sans aucune charge retenue contre eux. Alors à quoi aboutit cette enquête ouverte depuis 2 ans? Mathilde Vinceneux, vous êtes à Canteleu devant la mairie, la maire va s'exprimer dans les minutes à venir.
Oui, Mélanie Boulanger va faire face au micro après avoir passé 36 heures en garde à vue. Si elle et son adjoint au développement économique sont ressortis libres, sans mise en examen, c'est qu'il n'existe à ce stade aucun indice grave ou concordant contre eux. Mais alors pourquoi ces deux élus d'une petite commune de 15 000 habitants apparaissent dans cette affaire? Au cœur de cette longue enquête, il y a surtout une famille bien connue des services de police pour être à la tête d'un vaste réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent dans l'agglomération rouennaise. Une famille bien implantée localement, avec une influence politique justement. Parmi les 19 personnes placées en garde à vue vendredi, il y avait 2 frères de cette même famille et 3 de leurs lieutenants, selon une source proche de l'enquête. 2 autres frères sont en cavale à l'étranger. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que 8 personnes ont été relâchées, 5 sont mises en examen et 4 autres doivent encore être présentées à un juge d'instruction dans l'après-midi. Lors de ce coup de filet, les policiers ont saisi 1 million d'euros de biens mobiliers, 340 000 euros en liquide, des armes, 15 kilos d'héroïne et 6 kilos de résine de cannabis.
Mathilde Vinceneux en direct de Canteleu pour France Inter. Après le frelon asiatique, le frelon oriental. Il a été détecté il y a quelques semaines dans le 15e arrondissement de la ville, sans doute arrivé sur un navire de marchandises en provenance des Balkans. Plus agressif, il semble se propager plus rapidement que le frelon asiatique. Arnaud Dory préside l'association de défense de l'abeille en Provence. Après le travail mené pour contrer la précédente menace, il a peur de devoir repartir à zéro.
C'est une couche de plus, une couche désespérante au point où on en est. C'est déjà un frelon qui est quand même assez agressif, ce qui est très invasif. Déjà, le frelon asiatique s'est répandu de façon un peu systématique et on a pu voir comment il se répandait. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Il s'implante des nids très rapidement, un peu de partout, et il est quasiment inutile de détruire les nids parce que pendant qu'il y en a un qu'on détruit, il y en a plusieurs autres qui se montent. Donc, ils sont très invasifs. On a mis, nous, en place des stratégies. Il y a des pièges qui sont très sélectifs, qui ne capturent que les frelons asiatiques. Le frelon oriental a une autre taille. D'après les données, l'expansion de ce frelon oriental est beaucoup plus rapide que celle du frelon asiatique. Donc forcément, on va être démunis. On n'aura pas le temps de lutter. C'est Marseille, c'est les communes environnantes, mais la région et puis très rapidement toute la France. Oui.
Propos recueillis par Clémentine Sabrier de France Bleu Provence. Allez, après toutes ces mauvaises nouvelles, instant détente. James Blake, cinquième album, il s'appelle Friends That Break Your Heart. C'est toujours aussi langoureux, Mathieu Culeron.
We both swam out to sea. You lost me willingly. But that was yesterday.
Un visage apaisé, étendu sur le sol, est en train de muter en végétal dans une steppe non identifiée. L'homme à la tête déchue est celle de James Blake et l'ensemble forme la pochette de son cinquième album. Le musicien anglais devenu coqueluche du rap américain poursuit sa longue introspection entre errance et quête de sens, mais ce serait sans doute une erreur de résumer ce disque à un long gémissement plaintif tant cet album regorge de surprises et de tours de force de composition. Énième album, reporté pour cause de Covid, le dernier James Blake demeure aérien, propose des petits morceaux de bravoure R&B, mais aussi un rap plus rugueux, avec notamment J.I.D. en invité. Friends That Break Your Heart signe un retour flamboyant pour James Blake, grand album mélancolique moderne qui irritera peut-être, mais restera sûrement comme un moment de bravoure dans sa discographie.
If I'm so happy.
James Blake, Friends That Break Your Heart sur les plateformes et dans les bacs. La musique, c'est aussi cette intro que beaucoup d'entre vous ont reconnu très vite. Il suffira d'un signe, le premier tube de Jean-Jacques Goldman, il y a 40 ans. Goldman a aujourd'hui même 70 ans. C'est le genre d'information qui dit mieux que toutes les réflexions que le temps passe. Son dernier album date d'il y a 20 ans, mais il est toujours aussi populaire. La preuve à Laval et Besançon.
Indéboulonnable. Mais moi, depuis toute petite, je le connais. Je suis allée le voir en concert, je vais avoir quasiment tous les albums.
Jean-Jacques Goldman, oui, c'est un chanteur qui m'a beaucoup plu.
Du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons.
Je trouve qu'il passe toujours bien.
Il traverse bien le temps.
Je te donne.
Ringard, non ?
Non, ringard, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'air du temps.
Et je pense que c'est un bon gars.
Envole-moi, envole-moi.
Je vais avoir 50 ans, ça m'évoque mes 12 ans, parce que c'est l'époque où j'écoutais Goldman. Mes filles écoutent un ou deux morceaux de Goldman et je suis très étonnée.
Et les moments de blues, on se met un petit Jean-Jacques Goldman et tout va bien.
Et selon Le Parisien ce matin, pas de retour en concert de Goldman prévu, mais une tournée avec ses musiciens, dont Michael Jones, l'autre voix de Je te donne. Allez, dans la série des Indémodables, Astérix, le nouvel album sort le 21 octobre. Quelques éléments supplémentaires depuis ce matin. Il se passera chez les Sarmates, peuple qui vivait au nord de la mer Noire, dans le grand froid. Et parmi les personnages, un certain Terrinconus, qui a furieusement la tête de Michel Houellebecq. La météo dans un instant.
Innovation des laboratoires LIERAC.
Hey, monsieur, juste une question. Il n'y a rien de mieux que la simplicité, non? Eh bien, pour le soin, ne tournez plus autour du pot. Il y a le nouveau LIERAC Homme. Les nouveaux soins 3 en 1 pour la peau, le rasage et l'hygiène. LIERAC Homme, c'est simple. 3 en 1, ultra efficace, extrasensoriel. C'est ça la simplicité. Pour que prendre soin de soi reste un plaisir. Un point, c'est tout. LIERAC Homme, le soin en plus simple. En pharmacie, parapharmacie et sur lierac.fr.
Il y a très longtemps que je voulais écrire sur la montagne.
Jean-Christophe Ruffin.
Rémy, c'est un guide, une sorte de guide mondain, de jolie cliente, riche de préférences. Laure est très séduisante, elle travaille dans la finance, c'est une warrior. Il y aura un chemin l'un vers l'autre, mais qui se fera d'abord vers la montagne. La montagne, ça peut être extrêmement sensuel quand il fait beau, quand t'es bronzé. La montagne, c'est aussi la tragédie et c'est un peu comme l'amour finalement. On passe ou on passe pas, et on ne le sait pas avant.
Les Flammes de Pierre, le nouveau roman de Jean-Christophe Ruffin, chez Gallimard.
France Inter aime
Julie en 12 chapitres, le nouveau film du cinéaste norvégien Joachim Trier.
Okay, but there's something to hide in Christmas.
Julie a bientôt 30 ans.
Elle aime Axel, qui en a 45, quand elle fait la connaissance du jeune et séduisant Evin. Julie en 12 chapitres, un film sur l'amour, le désir et la fidélité, avec Renate Reinsve, prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, le 13 octobre au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est ensoleillé au sud, c'est plus nuageux au nord, Elodie.
Oui, près de la frontière belge en particulier, sur Champagne-Ardenne, la Lorraine, le nord de l'Alsace, ce sont les nuages qui dominent avec quelques gouttes possibles. Sur les autres régions du nord, on trouve davantage d'éclaircies. Le soleil domine même sur les plages de la Manche, sur la Bretagne, sur la Franche-Comté. Et puis sur la moitié sud, beaucoup de soleil. Petit bémol en Méditerranée, le vent de nord à nord-ouest souffle jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Les températures, elles bougent peu par rapport à hier. Elles sont proches des moyennes de saison. Comptez 13 degrés à Langres, 16 à Valenciennes, Mulhouse, Saint-Malo et Clermont-Ferrand, 17 degrés à Paris, 19 au Sable d'Olonne, 20 degrés à Agen, 21 à Nice, 25 degrés à Perpignan. Demain, on aura beaucoup de nuages sur un grand quart nord-est avec en prime quelques pluies près des frontières du nord. Et puis en allant vers l'océan et vers la Méditerranée, c'est le soleil qui s'imposera, Bruno.
Merci Elodie Calac. Météo France, tout de suite l'invité du 13-14. Nous parlons du métier de pompier aujourd'hui.
France Inter, le 13-14. Bruno Dilly.
Les pompiers qui sont en congrès cette semaine à Marseille, cela commence mercredi. 250 000 pompiers sont au service des autres en France. Environ 85% sont des volontaires, non professionnels. Les deux grands corps professionnels sont les pompiers de Paris et les marins pompiers de Marseille. C'est à Marseille, justement, que se tient le congrès. Et le président national de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est avec nous jusqu'à 13h45. Bonjour Grégory Allione.
Bonjour.
Vous publiez avec Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne, « Sapeurs-pompiers, un engagement au quotidien » aux éditions du Rocher. C'est cela aujourd'hui d'être pompier. Avant, c'était avant tout lutter contre le feu. Aujourd'hui, c'est mettre en avant la notion d'engagement pour les autres.
Je crois que vous êtes sapeur-pompier même pour lutter contre le feu. Vous avez nécessité d'avoir de l'engagement. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut aimer les autres, s'engager pour son territoire, sachant que 85% du champ missionnel, c'est du secours d'urgence aux personnes, c'est de l'ambulance, comme je l'appelle vulgairement. C'est ce véhicule que vous voyez régulièrement pour assister, secourir, et notamment dans les situations d'urgence, sur l'ensemble du territoire national.
85%, dites-vous, est-ce qu'il y a beaucoup de fois où vous vous dites, là, on est en train de faire quelque chose qui ne relève pas de notre action ?
Vous avez cité nos collègues militaires de Paris ou de Marseille. Oui. Ce matin, j'étais avec l'amiral et on évoquait justement ce champ missionnel. Oui, il y a des fois où on nous sollicite, je dirais, pour des missions futiles. Et dans le jargon, on appelle ça, on nous appelle pour faire le taxi. Pourquoi ? Parce qu'on nous appelle pour faire des missions qui ne sont pas les nôtres, qui pourraient être celles du concitoyen, celles des ambulances privées, celles de taxi. Alors que nous sommes préparés effectivement pour l'urgence, le drame, là où il y a besoin de technicité, là où il y a besoin d'extraire quelqu'un d'un milieu hostile. C'est cela à quoi on se prépare sur tout le territoire national et quelle que soit la commune dans laquelle nous sommes.
Grégory Allione, y a-t-il suffisamment de pompiers aujourd'hui en France ou manquez-vous de vocation ?
Il y a deux sujets. Premièrement, il y a des enjeux, que ce soit le secours d'urgence aux personnes ou le dérèglement climatique, qui exigent que l'on renforce l'épine dorsale constituée par les sapeurs-pompiers professionnels et que l'on ait aussi cette capacité à mobiliser dès l'instant où l'urgence est là, dès l'instant où il y a des crises. Il y a une semaine à Marseille, il y avait des inondations terribles, une vigilance rouge. Il y avait des feux cet été dans les Maures. L'année dernière, c'était sur tout le territoire national qu'il y avait le sujet des feux d'espace naturel. Il faut de la ressources volontaires pour compléter ce dispositif, mais il faut aussi développer cette notion de l'engagement. La notion de l'engagement, c'est attirer les uns et les autres pour ce que j'appelle faire nation, parce que lorsqu'on s'engage pour le bien commun, lorsqu'on s'engage chez les sapeurs-pompiers, on apprend à travailler en équipe, on apprend à respecter l'autre, et c'est tout cela qu'il faut aujourd'hui effectivement développer chez les sapeurs-pompiers, mais au sein de notre société, pardon.
Mais très clairement, vous manquez d'hommes aujourd'hui ou pas ?
Je crois qu'avec les enjeux que je viens d'évoquer, que ce soit le secours d'urgence aux personnes ou le dérèglement climatique, forcément, il y a des enjeux qui exigent de la ressource humaine, qui exigent de la mobilisation. Donc oui, les enjeux qui sont devant nous, les défis qui s'offrent à nous, exigent que l'on ait encore plus d'hommes qui viennent, et de femmes notamment, qui viennent nous rejoindre pour accomplir ces missions.
Ah oui, quelle proportion de femmes parmi les 250 000 pompiers ? Est-ce que vous avez la réponse à cette question ?
Oui, aujourd'hui, au plan national, nous sommes à moins de 20%, c'est-à-dire 17% exactement. Et nous avons besoin d'une féminisation et de faire comprendre aussi que le métier de pompier a beaucoup évolué dans le temps. De soldats du feu, ils sont passés à soldats de la vie et que monsieur et madame tout le monde est capable d'être sapeur-pompier. On a une image trop élitiste et aujourd'hui, faire secourir son prochain, assister son prochain, faire des missions de sapeur-pompier, c'est offert à l'ensemble de celles et ceux qui ont déjà du courage et de l'engagement.
Grégory Allion, on a pu voir des pompiers dans les manifestations anti-pass et anti-vax ces dernières semaines et vous-même redoutiez que cette obligation vaccinale pour les pompiers se traduise par du coup un manque d'effectifs pour ceux qui refusent malgré tout de se faire vacciner. Qu'en est-il ?
Aujourd'hui, vous parlez déjà au passé. Ça veut dire qu'on est passé forcément à autre chose. On a, comme dans la société, on a une représentation de la société au sein de nos rangs. Il y a quelques collègues qui n'ont pas souhaité se faire vacciner. Malheureusement, ils quittent leur engagement pour cette volonté, cette démarche qui est totalement personnelle.
Il y en a qui ont quitté leur engagement. Est-ce que vous savez le mesurer ? Est-ce que vous savez dire combien de personnes, quelle proportion de volontaires ont renoncé à leur engagement pour ne pas se faire vacciner ?
Aujourd'hui, on le mesure entre 5 et 7% selon les territoires. Et ce que je peux vous assurer, c'est que il y a une réalité. C'est que le 15 octobre et prochainement, la date que nous allons voir arriver, qui est la date butoir pour se faire vacciner chez nous, chez les sapeurs-pompiers. Et pour autant, nous arrivons à avoir des plans d'opération et des dispositifs préventifs qui sont formés pour les jours prochains, qui sont complets. Donc, ce qui veut dire qu'on arrive à faire face malgré ce pourcentage de collègues qui, je le dis, malheureusement, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu se faire vacciner.
Et c'est beaucoup, 5 à 7 % tout de même.
Oui, ça reste toujours trop important. C'est malheureusement une ressource que l'on perd. Mais pour autant, comment faire sur la volonté des uns et des autres ? C'est la même proportion que l'on observe dans la population. Il aurait peut-être été plus agréable pour nous toutes et nous tous de dire la vaccination est obligatoire pour chacun d'entre nous, chaque citoyen. Et effectivement, on n'aurait pas stigmatisé quelques soignants ou quelques sapeurs-pompiers.
Grégory Allion, question de Jacques au standard de France Inter pour vous. Bonjour Jacques.
Bonjour France Inter.
Nous vous écoutons.
Alors d'abord, un petit préalable, je remercie France Inter pour la qualité toujours constante de ses émissions.
Merci.
Je vous appelle de Fort-Calquier, capitale historique de la Haute-Provence, et ma question est la suivante. Est-il envisagé une gestion des pompiers au niveau national, à l'instar des forces de l'ordre ? En effet, la gestion départementale est source d'inégalité du citoyen au regard du secours. C'est fortement regrettable.
C'est-à-dire que dans votre département, on manque de pompiers, pour dire les choses très très directement, Jacques ?
Oui. On assiste à un déficit de pompiers professionnels, récurrent depuis de nombreuses années, et qui a du mal à être comblé, on le sait, le volontariat est difficile, et ça a du mal à être comblé, d'où ce souci de qualité du service au profit du citoyen.
Grégory Allion, alors ça amène deux questions. D'abord, effectivement, y a-t-il des régions où recruter des pompiers ? On parle de Fort-Calquier, région un peu plus rurale, où c'est plus difficile ?
Non, il y a deux sujets. La question qui est posée par notre auditeur est tout à fait pertinente. Le premier sujet, c'est la solidarité entre les territoires. On a une grosse difficulté, effectivement, c'est que les territoires ne se ressemblent pas. Et il faut savoir que les collectivités, les mairies, les communes et les départements, et notamment les départements, contribuent fortement financièrement au fonctionnement et à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours pour chaque département. Donc forcément, chaque département étant différent, la ressource financière est totalement différente. Donc on a un sujet de solidarité sur l'accompagnement des territoires. Et cette solidarité, elle ne doit pas s'effectuer de manière transversale entre les départements, mais elle doit s'effectuer de manière horizontale, c'est-à-dire arriver de l'État envers les territoires les plus en difficulté. C'est ce que nous allons en appeler au ministre de l'Intérieur et au président de la République pour faire en sorte que l'on accompagne les territoires dans cette solidarité. Alors, Jacques évoquait le sujet du fonctionnement sur les pompiers professionnels, sur le sujet des sapeurs-pompiers volontaires, mais il y a aussi le sujet des investissements. Parce que lorsque vous dites, Jacques évoque un département qui est soumis au feu de forêt, donc qui investit dans le feu de forêt, mais lorsque vous évoquez le sujet d'un département qui est moins contraint par le feu de forêt, mais qui doit faire face au dérèglement climatique, ça veut dire qu'aujourd'hui, un département qui est dans le centre-val de Loire ne peut plus arriver dans le département de Jacques en renfort l'été, parce qu'il est contraint lui aussi. Donc vous voyez qu'il y a deux volets.
Et il y a un volet salaire aussi. On parlait de l'engagement des très nombreux pompiers bénévoles. Quand on est pompier bénévole, qu'est-ce qu'on touche comme gratification ? Parce qu'au-delà de l'engagement, il y a aussi une reconnaissance financière.
Lorsque vous êtes sapeur-pompier volontaire et pas bénévole, bénévolat et
volontaire, bien noté, bien noté.
Voilà, volontaire, c'est moins de 8 euros de l'heure pour partir au feu. Et je le dis, quelqu'un qui s'engage comme sapeur-pompier volontaire a une prestation de fidélité et de reconnaissance. C'est l'équivalent d'une retraite, entre guillemets, lorsqu'il a fait 20 ans de service. Lorsqu'il s'est engagé pour partir au feu, pour sauver tout le monde, après 20 ans de service, il touche, je vais le dire, sur votre antenne, 488 euros de reconnaissance par an. 488 euros par an.
Donc il y a un sujet financier.
Il y a un sujet d'attrait, forcément. Aujourd'hui, il y a une véritable reconnaissance au-delà du sujet financier. Mmh. C'est de dire que lorsque je mets le mouchoir sur mes congés, lorsque je mets au rancard ma vie de famille, lorsque je mets parfois même au rancard ma vie professionnelle, mon évolution professionnelle, que je vais accompagner mes concitoyens, que je vais secourir et que je vais partir au feu, que je vais aider mon territoire, oui, il y a une reconnaissance d'une part de la part sur le sujet financier, mais aussi une reconnaissance de la part de l'État dans tout ce que l'on appelle les médailles, les gratifications, au-delà des messages et les actes d'amour à l'égard des sapeurs-pompiers qui sont et qui font la résilience des territoires. Et on l'a vu pendant la vaccination et pendant la crise du Covid.
Jacques nous appelait de Fort-Calquier, donc Alpes de Haute-Provence. Y a-t-il des départements où en particulier il y a une tension sur les effectifs? Est-ce que ça concerne en particulier des départements ruraux?
Ça concerne tous les départements. Les territoires, quels qu'ils soient, urbains ou ruraux, sont soumis à une pression en ce moment sur la demande de secours, sur la demande d'aide des populations pour deux sujets. Le premièrement, c'est qu'il y a une désertification médicale, il y a un vieillissement des populations, il y a des hôpitaux qui sont plus recentrés. Tout cela contraint les sapeurs-pompiers parce qu'ils deviennent les seuls acteurs de la santé sur les territoires. Et deuxièmement, il y a le dérèglement climatique. Donc oui, il faut une ressource humaine, une ressource financière et des matériels de manière conséquente. Il doit y avoir une véritable solidarité. Nous allons en appeler au président de la République pour faire en sorte que la protection civile soit une véritable politique publique dans le prochain mandat, notamment parce qu'il est important de considérer la protection civile au même titre que le développement durable, que l'écologie, et c'est la raison pour laquelle ce congrès à Marseille est très important.
Grégory Allion, un numéro d'unique urgence pour les secours. Est-ce que vous, à la Fédération des sapeurs-pompiers, vous y êtes favorable? On a pu entendre ces derniers jours le SAMU, beaucoup de gens du SAMU se prononçaient plutôt contre. Est-ce que vous y êtes favorable?
Quand vous dites beaucoup de gens, c'est un seul syndicat du SAMU, parce que toutes les organisations syndicales et les associations de SAMU ne sont pas toutes d'accord. Tout le monde est pour le 112, beaucoup de monde est pour le 112, comme dans les autres pays européens, comme dans d'autres pays anglo-saxons. Nous, ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les bleus, les blancs et les rouges travaillent sur les mêmes plateformes, répondent à la détresse de nos concitoyens, et qu'il y ait un numéro santé pour permettre de conseiller, d'accompagner celles et ceux qui ont besoin de conseils et d'orientation médicale. Et pour cela, il y a un numéro qui est en expérimentation dans 3 régions en France, c'est le 116-117 pour la santé.
Je voudrais qu'on consacre les dernières minutes de cet entretien, Grégory Allion, au changement climatique et aux conséquences que ça peut avoir pour vous, pompiers. D'abord un mot, il me semble que vous étiez en Australie sur les gigantesques feux de l'année 2020. Confirmez-moi que c'est le cas et quels souvenirs en gardez-vous ?
Alors oui, c'est le cas. Je suis parti avec 4 collègues en tant qu'expert auprès de l'Australie. Alors non seulement pour apporter ce que nous savons, de ce que nous comprenons des feux sur notre territoire national métropolitain ultramarin, mais aussi de ce qu'ils ont compris eux aussi de ce qui se passe sur leur territoire. Aujourd'hui, les feux deviennent de plus en plus agressifs, virulents et concernent des territoires qui n'étaient pas confrontés aux feux de forêt ou aux feux d'espace naturel. Donc il faut une véritable solidarité entre les territoires. Jacques, votre interlocuteur, l'a évoqué, mais une solidarité européenne, c'est la raison pour laquelle, avec le gouvernement, on se bat pour faire en sorte que Nîmes soit reconnu comme pôle d'excellence, la base aérienne de Nîmes soit un pôle d'excellence de la sécurité civile au plan européen. Et il faut avoir une solidarité internationale parce que cette problématique, c'est le dérèglement climatique qui le provoque, et il faut vraiment que l'on agisse tous ensemble et que finalement la protection civile, qui doit commencer par les agissements de nos propres concitoyens au tout début, qui est le propre secouriste, doit permettre justement une véritable politique publique de protection civile.
Allez, une dernière question, celle de Michel, qui nous appelle de Bourgogne. Bonjour Michel.
Bonjour monsieur.
Nous vous écoutons.
Voilà, je voudrais poser à votre interlocuteur une question sur le manque de diversité dans le corps des pompiers, qui est assez flagrant, je trouve. Il y a un manque de femmes, il y en a très peu, et il y a aussi un manque de représentation de la société actuelle, c'est-à-dire que les pompiers sont en majoritairement des hommes de race caucasienne.
Merci Michel, race, ou on va utiliser un autre mot si c'est possible. La diversité chez les pompiers, Grégory Allion, qu'en est-il? Vous nous parliez des femmes tout à l'heure. Est-ce qu'on manque de personnes de couleur chez les pompiers?
Écoutez, je crois que c'était une question il y a quelques temps. Dorénavant, l'ensemble des corps départementaux, les corps militaires sont présents dans tous les quartiers et représentent notre société. Aujourd'hui, je peux vous assurer que nos casernes, c'est la représentation même de la France. Alors, il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet médiatique, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on présente des sapeurs-pompiers à la télé, on présente effectivement des gens plutôt blancs, jeunes, et je vais le dire, plutôt musclé, donc ce qui veut dire que l'on fait comprendre aux uns et aux autres que ce ne sont pas la société. Or, les 250 000 sapeurs-pompiers en France, qu'ils soient militaires, volontaires, professionnels, et ce sont finalement la représentation équitable de ce que nous sommes sur la société, sur nos territoires. Et nous avons un vrai sujet de diversité. Il faut une diversité effectivement de couleurs, il faut une diversité de genre, mais il faut une diversité également de statut et de provenance sociale. Il faut que chacun comprenne que la protection civile, c'est l'enjeu de tous.
Merci Grégory Allion, sapeur-pompier, un engagement au quotidien, écrit avec Olivier Richefou, président du département de Mayenne. C'est aux éditions du Rocher et le congrès commence mercredi.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans le 13-14, le vif de l'histoire dans une dizaine de minutes. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Dubic.
Portrait d'un homme de droite et même d'extrême droite.
François Coty, qu'est-ce que vous dites? C'était un homme passerelle et un grand parfumeur.
Le feuilleton, une semaine dans la vie d'Alice Barbe, de ces acteurs, actrices de la société civile qui ont des projets tous azimuts. Vous verrez cela. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le juge de la série Engrenage est à votre micro aujourd'hui. Philippe Duclos, acteur de théâtre et de cinéma, qui a également publié Le juge et son fantôme aux éditions des Équateurs.
Un livre passionnant vraiment sur le métier de comédien. Comment on entre dans un rôle, comment on peine à le quitter. Philippe Duclos a joué dans les 7 premières saisons d'Engrenage, soit quasiment 15 ans dans la peau du juge Roban, au point de susciter des vocations de magistrat, oui. Et de voir parfois surgir chez lui, tel un fantôme, le personnage dont il a partagé la vie.
Partager la vie, c'est une bonne expression, parce qu'en fait, quand on me demande quelle relation un acteur entretient un rôle, je dis que c'est un peu comme dans la vie, un couple. C'est-à-dire, si vous vivez avec quelqu'un, quand vous n'êtes pas avec la personne, vous n'y pensez pas 24 heures sur 24, mais on vit avec. Et je dirais, un rôle, c'est comme ça. Il est entré dans ma vie à un moment. Alors, je décris tout ça dans le livre. C'est même parfois un combat, comme un couple. On peut se disputer. Mais on vit avec, quand même. C'est-à-dire, pendant 15 ans, il nous accompagne et je l'accompagne. Et donc, il sera toujours dans ma vie, je dirais. C'est comme, mettons, une femme avec qui j'aurais vécu pendant 15 ans. Même si je m'en sépare, elle sera toujours dans ma vie, évidemment. Juge Rebond, c'est tout à fait ça.
La lumière revient déjà. Comme un nouveau-né, je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
Et c'est donc la dernière séance qu'a choisi Philippe Duclos.
Chanson d'Eddie Mitchell, sortie sur l'album du même nom en 1977.
Eddie Mitchell, c'est ma génération, mais je faisais pas très attention à Eddie Mitchell. Moi, j'écoutais Johnny quand j'étais adolescent. Et cette chanson-là, bien sûr, je la connaissais, mais je ne prêtais pas attention. Et en fait, c'est une découverte très récente. J'étais en train d'écrire la fin de Le juge et son fantôme, et j'arrivais pas. Je suis resté pendant des mois sur les dernières pages. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je jouerais plus le rôle du juge Rebond, et que j'étais en train d'écrire l'adieu au personnage. Et c'est dans cette ambiance, j'ai entendu la chanson, je l'ai écoutée vraiment, elle m'a bouleversé absolument. Et donc, elle est rentrée vraiment dans ma vie à ce moment-là, donc très récemment, ainsi qu'Eddie Mitchell, parce que du coup, j'ai écouté ses chansons. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a une thématique, et vraiment une cohérence très forte de ses chansons, qui tourne autour, je crois, du rêve américain à travers le cinéma.
Bye bye. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence et le rideau sur l'écran est tombé.
Si Philippe Duclos a choisi cette chanson, c'est également parce qu'elle lui rappelle sa propre enfance. Lui, avec ses parents, il a passé un nombre infini de soirées dans les cinémas de son quartier.
Une séance de cinéma dans les cinémas de quartier, ça prenait toute la soirée, ça durait plus de 3 heures. Et on voyait donc un ou deux documentaires, parfois ennuyeux, un ou deux dessins animés, là c'était la fête. Il y avait les publicités, il y avait les actualités, et bien sûr, alors le cinéma, toutes mes premières émotions cinématographiques, et sans doute les plus fortes, sont venues de là. Donc les films de Capellépé, les westerns, les comédies musicales, et les films d'Hitchcock, les premiers que j'ai découverts, qui m'ont marqué définitivement. Alors du coup, je trouve que la chanson d'Eddie Mitchell, elle cristallise tout ça. Elle est très nostalgique, au sens où c'est vraiment un adieu à une chose qui n'existera plus jamais. Évidemment, un adieu à son enfance. Mais ce que j'aime dans cette chanson, c'est qu'elle n'est pas triste du tout. Elle est allante, on a envie de la fredonner. Elle est poignante au fond, mais, comment dire, elle est très pudique.
C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
La dernière séance d'Eddie Mitchell, c'était donc Frédéric, le choix du comédien Philippe Duclos.
Qui raconte son métier, ses tourments, ses lectures et son amour du cinéma dans Le Juge et son fantôme. C'est publié aux Équateurs.
Le feuilleton à 13h50, une semaine dans la vie d'Alice Barbe. On parle souvent de ces militants de la société civile qui essaient de faire bouger les choses. C'est exactement le cas d'Alice Barbe. Elle a créé des incubateurs pour entreprises, un restaurant, des activités de consulting et elle a notamment participé à la fondation de Singa, organisation qui veut faciliter l'intégration des réfugiés. Singa les met en contact avec des habitants qui acceptent de les accueillir chez eux et les aide à développer des projets. C'est comme ça qu'Alice Barbe a connu Carlos Arbeláez. Il vient de Colombie. C'est l'épisode 1 du feuilleton. Reportage Antoine Gignot.
Aubervilliers, on est dans l'atelier de Carlos, qui est un ami de longue date, qui a été accompagné par Singa pour plein de projets et qui a monté récemment une entreprise de café qui s'appelle Populaire, éco-responsable, circuit court.
L'idée, c'est créer du lien autour du café. On veut créer une école, apprendre ces métiers à des personnes réfugiées qui puissent aussi trouver du travail dans ces secteurs d'activité. Parce qu'il y en a, besoin en fait. On recherche tout le temps des baristas formés qui connaissent un peu les recettes et qui aiment bien le café et qui apprécient ces produits.
Vous arrivez ici en 2011. Dans quelles circonstances d'abord ?
Je débarque de Colombie en tant que réfugié. Pour mes engagements politiques en Colombie, j'étais étudiant de droit à l'université. Et je travaillais les thématiques liées au conflit armé, des abus de par l'armée contre les civils. Et c'était très dangereux. J'ai perdu des gens très proches avec qui je travaillais. J'ai eu très très peur et je préférais quitter la Colombie. J'arrive ici, j'arrive dans une ville que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais même pas entendu parler français dans ma vie. C'est le deuxième chapitre de ma vie qui commence avec un long passage à la rue. Et à Paris, dans les sous-sols, le métro, les parcs, les bus de nuit, les salles d'attente d'hôpitaux, les bibliothèques.
On a typiquement l'exemple de quelqu'un qui est arrivé avec rien. Aucune connexion, même pas linguistique.
Ouais. J'ai rencontré Carlos à un moment où ça allait un petit peu mieux dans sa vie parce qu'il avait eu cette chance incroyable, parce que c'est très rare quand même, d'être accueilli dans une famille. Il reprenait des études et il avait envie de monter un projet pour aider justement les personnes sans-abri à Paris, pour qu'elles puissent tout de suite trouver des solutions à tous les problèmes qu'elles pouvaient rencontrer. Mais en fait, l'histoire, c'est que Carlos et moi, on est devenus potes, en fait. C'était pas juste une collaboration et je crois que Singa, c'est une histoire de gens qui se rencontrent et qui deviennent amis.
On a trouvé une communauté qui partage les mêmes valeurs, la même vision du monde. Et une communauté où on se sent utile aussi. C'est quelque chose de très très important en fait. C'est pas qu'ils ont vu justifier notre séjour en France par nos talents, parce que ça c'est moche. On justifie rien, on veut juste participer à la construction de la société qu'on intègre. Il y a souvent un discours très angélique qui dit oui, c'est un bon réfugié, il est sérieux, il est intelligent, il a des projets, il a un peu réussi. Non, mais c'est pas ça, il est juste engagé pour construire la société. chaque café, chaque méthode, un peu sa recette.
Il y a des points communs entre Julie, qui est bénévole à la chapelle pour une association de distribution alimentaire, et Youssef, qui vient de débarquer après être passé par l'horreur de la Libye et la Méditerranée. Il y a le point commun que les deux sont jeunes, sont face à un monde qui est difficile à comprendre. On vit avec les mêmes défis. Le réchauffement climatique, ça fait peur à tout le monde. Le coronavirus, ça fait peur à tout le monde, ça tue tout le monde. Maintenant, il faut prendre conscience qu'on est ensemble face à ces enjeux et qu'on doit se battre ensemble. Il va falloir mettre les bouchées doubles, je pense, dans les prochaines années.
Une semaine dans la vie d'Alice Barbe, suite du feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand, demain.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire, on parle de droite hors les murs pour ces personnalités des médias, élus militants dont le discours, les idées, l'auditoire jette un pont entre droite et extrême droite. C'est dans le climat, en ce début de campagne électorale, Éric Zemmour en est l'archétype. Il y a Jean Lebrun dans l'histoire, souvent oublié, une galerie de personnages extravagants, extrémistes, qui s'inscriraient aujourd'hui dans cette droite hors les murs. C'est le cas de François Coty, dont le nom a survécu via son activité de parfumeur.
Bah oui, quel parfumeur que ce Coty avec un Y, hein. Et pas avec un I, comme le nom de sa mère, née à Ajaccio. Origan, Muguet, Chypre. Ambre antique, dans leur flaconnage signé Lalique. Pour Coty, le parfum était un objet avant d'être une senteur, et il savait si bien parler aux femmes. Cet homme si délicat, presque réservé. Les historiens de la mode, à court de poésie couturière, disent « Ces produits sont contemporains des plus belles œuvres du fauvisme, comprenne qui pourra. »
Mais quand il devient propriétaire de journaux, autre activité, il est contemporain du fascisme.
Oui, alors là, on va comprendre assez vite. C'est en effet un grand admirateur de Mussolini. Dans les années 20, il a composé un véritable empire de presse, avec à Paris, entre autres publications, deux quotidiens, C-O-T-Y-D-I-E-N-S, Le Figaro et L'Ami du Peuple. Et en province, quantité de feuilles achetées alors qu'elles étaient en difficulté. Ah, le glaneur de la Manche, les nouvelles du pays rougeois, non loin de chez vous Bruno, en Anjou. Observant Coty, le cinéaste Jean-Pierre Melville dira « Citizen Kane n'était pas américain ». Alors il faut se méfier des magnats de la presse que guette toujours la mégalomanie. À l'époque, l'un faisait hisser son pavillon personnel sur le toit dès qu'il entrait dans ses bureaux. L'autre obligeait ses collaborateurs à signer du nom des gares qui scandaient son trajet vers son château. En matière de château d'ailleurs, Coty était champion. Quand il en achetait un, il aimait le reconstruire à sa façon 10 mètres plus loin. Et il l'équipait de systèmes de surveillance électronique inouïs parce qu'il était obsédé par la sécurité.
Et sa presse lui servait à diffuser un message politique.
Il avait placé sa fortune sur la destruction de la Troisième République qu'il jugeait malade, pour ne pas dire pire. Il en appelait à un pouvoir fort qui se serait appuyé sur le référendum. Que ne fait-on de référendum sur l'immigration ? Parce que le souci numéro un de Coty, c'est bien de Coty que je parle, c'était les étrangers. Leur flot charrie de multiples bandits, assassins, escrocs, sadiques. Chaque fois qu'un peuple fait sa lessive, dit Coty dans son Ami du Peuple, il nous envoie son linge sale. Tenez, à la pensée qu'un nommé Einstein, venu de l'Allemagne de 1933, puisse occuper une chaire au Collège de France, il prend sa plus belle plume. Le Collège de France n'a pas été créé pour hospitaliser tous les Israélites qui, se jugeant persécutés, se targueraient d'une science inaccessible au reste des mortels. Non mais...
En 2019, tout récemment, la municipalité de Puteaux a baptisé François Coty une passerelle au-dessus de la Seine, en souvenir, a-t-elle dit, de l'usine qu'il possédait dans les parages.
Ah ben, une très belle arche élégante que les putéoliennes et les putéoliens empruntent maintenant chaque jour pour aller au centre-ville. Depuis l'île de Puteaux, le poumon vert de la cité. Moi, je trouve que la maire de Puteaux a eu raison d'associer le nom de Coty à une passerelle, parce qu'il est lui-même une passerelle entre la droite et l'extrême droite, entre la bourgeoisie consciente d'elle-même, lectrice du Figaro, et la foule qui croyait ne pas faire de politique en achetant l'Ami du Peuple, jusqu'à 1 million d'exemplaires.
Alors, cela dit, Coty n'a été qu'un météore.
Ben oui, parce qu'il embrouillait ses affaires pour échapper le plus possible au fisc. Et après le déclenchement de la crise de 29, il ne se retrouvait plus dans toutes ses factures. Ses prodigalités avec ses maîtresses avaient provoqué le divorce d'avec sa femme, qui exigeait la moitié de sa fortune. Et il a dû renoncer peu à peu à la gestion de toutes ses sociétés. Il lui restait juste son mandat de maire d'Ajaccio, obtenu en 31. Mais les formalités démocratiques, ça lui paraissait d'un tel ennui qu'il n'était jamais paru au conseil municipal. Il mourut isolé en juillet 34. C'est l'histoire de l'extrême droite française de ces années-là. Un leader est effacé et un autre prend sa place.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Et bonjour Bruno.
La Terre au carré, Mathieu. Quel est le programme aujourd'hui ?
On va s'interroger sur la biodiversité, tout simplement.
D'accord, c'est noté, à tout de suite.